avec Hélène Denis. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. C'est l'émission Quotidien qui commence. On est ensemble jusqu'à 11 heures. Aujourd'hui, au menu, une rencontre avec Gabriel Gélinas, co-auteur du Guide de l'Auto 2026, le guide qui célèbre son 60e anniversaire. Alors, on va en parler avec lui. J'ai des questions pratico-pratiques à lui poser également. Et en studio de la belle grande visite, oui. Notre collaborateur Daniel Lachance qui est de retour, chroniqueur musique. Bonjour Daniel.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, là je perds la voix.
Ben oui, c'est...
je suis trop ému.
C'est l'émotion.
Oui, c'est l'émotion, c'est l'émotion. On va mettre ça sur le dos de l'émotion. Daniel, l'été, comment ça a été pour vous?
Ah, ça a été, ça a passé tellement vite. On est encore en été, heureusement.
Oui,
parce que j'ai
jusqu'au 22.
Oui, il me semble que je n'ai pas eu connaissance qu'on a eu un été cette année.
Pourquoi? Vous étiez super occupé?
Bien, ou... j'étais occupé, puis je sais pas. On dirait que l'été, on tombe sur un mode plus relax.
Uh-huh.
On voit pas le temps passer, tout simplement.
Ouais.
On rencontre plus de monde, on prend plus le temps de faire plein de choses.
Vous trouvez que c'est une saison en particulier, là, où on voit pas le temps passer?
Oui, puis j'ai l'impression, j'ai toujours eu l'impression que l'été est beaucoup trop court. Dans les 12 mois, on les devrait occuper au moins 4-5
mois. Ça passe vite.
Ouais,
alors vous, l'humidex à 40, là, ça vous fait pas peur?
Bien, c'est justement ça. On tombe tellement sur un mode ralenti qu'on n'a pas l'impression...
De plus en plus.
Oui, oui, parce que quand il fait trop chaud, c'est sûr qu'on ne s'énerve pas trop
non.
avec ça. Là,
on devient
relax,
un lézard.
C'est ça.
Ouais.
Mais quand ça dure plusieurs semaines, on se rend compte que l'été est presque fini. Puis finalement, on n'en a pas fait
ouais,
assez.
Mais là, l'air est bon
oui, présentement, ce matin, oui.
Ouais. Ouais. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Daniel?
Je vais vous parler d'un auteur, compositeur, interprète, réalisateur, producteur, dont le nom n'est pas assez connu à mon goût, M. Germain Gauthier.
Ouais.
Qui est décédé tout récemment, le 28 août. Et
il avait quel âge?
Il avait, mon Dieu, j'ai ça devant
moi. On regardera
moi,
ça tantôt.
Ouais. Mais c'est surtout que quand j'ai vu ce nom-là au début, je me disais, « Mais semble que ça me dit quelque chose, mm-hmm. mais je n'allumais pas vraiment sur ce qu'il avait fait. » Et j'étais tellement surpris de voir tout ce qu'il a fait. Il a tellement laissé sa marque dans la
ouais.
musique au Québec. Ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut
absolument.
La peine de
je me souviens
ça.
Que Joe Bocan en parlait souvent. Il lui
oui.
donnait des crédits.
Ah, ouais, et, avec raison.
Il ne faut pas
raison.
Les oublier, non, les auteurs-compositeurs, parce que sinon, il n'y aurait pas de chansons.
Absolument.
Merci, Daniel, de parler de Germain Gauthier aujourd'hui. Elle est au bout du fil. Elle s'appelle Isabelle Falardeau. Vous la connaissez bien, Isabelle.
Bonjour.
Allô, allô! Alors aujourd'hui, Isabelle, vous allez nous parler de quelqu'un que vous appréciez, je crois.
Oui, effectivement, je vous en ai déjà parlé, si vous vous en souvenez, du pirate vert Raïs Zaïdi. C'est quelqu'un qui lutte contre le gaspillage alimentaire tout en nous aidant à nous nourrir à peu de frais. Mais il fait aussi la lutte aux îlots de chaleur, c'est ce que j'ai découvert dans cette chronique de Rosemée Autonne-Témorin, qui a fait une petite collaboration spéciale à la presse.
Merci d'être là pour partager ce texte et nous faire connaître ou découvrir ou pas, parce qu'on le connaît quand même. Là. Il y a eu quelques articles qui ont été écrits sur lui et vous en avez déjà aussi fait une, pas une article, mais une chronique. Et donc, on en parle encore une fois aujourd'hui, puis je pense que ça vaut la peine de mettre ce personnage en lumière. Et justement, parlant de lumière, je l'ai même pas faire de lien, mais c'est ça la magie de la radio. Voici Simon Lachance.
Tant pis si je perds au change ma place au rayon des évidences. Y a pas d'urgence. Mille fois encore, malgré les années qui s'évaporent, je recommence. Déclarer la guerre à l'envie de plaire, déclarer la guerre à l'envie de plaire, déclarer la guerre, déclarer la guerre, faire ma propre lumière. Je ne suis pas un grand, que je n'ai de place qu'au bout du rang. Au moins je l'apprends. Et si ma voix ne résonne que lorsque j'écris tout bas, ça me va. Déclarer la guerre à l'envie de plaire. Déclarer la guerre à l'envie de plaire. Déclarer la guerre, déclarer la guerre.
La chanson « Lumière » de Simon Lachance.
À la une de la Presse Plus, c'est loin d'être lumineux. Centre jeunesse, la tête d'une éducatrice mise à prix, une histoire horrible. Nadine, prénom fictif, craint pour sa vie depuis plus d'un an. Elle a changé de voiture, elle évite certains quartiers, elle regarde toujours par-dessus son épaule durant ses trajets minutieusement élaborés. Cette éducatrice en centre jeunesse, désormais en arrêt de travail, doit prendre ses précautions depuis qu'un adolescent relié au gang de rue a mis sa tête à prix pour 12 000 $, mécontent des nombreuses interventions à son égard. Accusé de crimes graves, l'adolescent est détenu au centre jeunesse où travaillait Nadine depuis plus de 15 ans. « J'ai un contrat sur ma tête. C'est un jeune qui aurait mis ça sur ma tête il y a plus d'un an sur un groupe Telegram privé », a-t-elle confié. « Nous avons choisi d'occulter certains détails de l'histoire pour préserver son identité et celle du criminel. Elle ignore si le contrat est encore en vigueur. Sa version des faits a été validée par plusieurs sources issues du milieu criminel et par des intervenants sociaux. » Une source confirme aussi que la police a été mise au courant, mais après vérification, elle n'a pas été en mesure de déposer des accusations. Nadine a appris la troublante nouvelle il y a plus d'un an. Un autre jeune au courant du contrat l'a averti, craignant pour la vie de son intervenante. « Le contrat, c'est de me tuer et de faire flamber ma voiture parce qu'il veut que je souffre », dit Nadine. L'adolescent serait fâché contre elle en raison de plusieurs interventions où il était ciblé, selon elle. Il fallait vraiment le surveiller. Il représentait un danger pour les autres détenus. Et Nadine a été témoin de l'impuissance des policiers. C'est moi qui leur ai appris pour le contrat. Ils ne peuvent rien faire pour moi. Il est difficile de prouver quoi que ce soit puisque les groupes Telegram où circulent de tels contrats sont privés. Et impossible de déposer des accusations de complot puisque les jeunes qui l'ont prévenu ne veulent pas devenir délateurs. Alors, ça donne froid dans le dos. C'est le remaniement ministériel aujourd'hui à Québec, mais là, il n'y a plus grande surprise. On annonce à peu près toutes les nouvelles que François Legault va répéter, j'imagine. Il va peut-être avoir quelques lapins dans son chapeau, mais je ne sais pas. On verra bien. Ça se passe aujourd'hui, mais Tommy Chouinard écrit « Il n'y a pas de rétrogradation pour Geneviève Guilbeault. Certes, elle perd les transports, mais elle hérite des affaires municipales, une responsabilité qu'elle convoitait. Bernard Drainville passe, quant à lui, de l'éducation à l'environnement, une des surprises du remaniement ministériel que François Legault présentera aujourd'hui. Ce mercredi, Benoît Charrette, actuel titulaire de l'environnement, resterait au Conseil des ministres et aurait donc de nouvelles responsabilités. Tout indique que plusieurs ministres demeurent en place. Parmi les députés qui accéderont au sein des Saints, on compterait Yannick Gagnon, ex-directeur général du Patro de Jonquière, un nouvel élu de la QV 2022. Alors, on va suivre ça aujourd'hui. À la une du Journal de Montréal, c'est Justin Trudeau. On écrit « Justin s'est trouvé une nouvelle job des discours à 130 000 $ ». Alors, c'est le ton du Journal de Montréal pour parler de, du nouvel emploi de Justin Trudeau. Alors que je cherche la page parce que j'ai plié toutes sortes de choses. Il y a tellement de sujets, on ne sait plus où donner de la tête. « Fini les vacances pour Justin Trudeau », écrit Raphaël Pirot. L'ancien premier ministre a commencé sa carrière post-politique avec un discours en Corée du Sud dont le somptueux cachet dépasserait les 130 000 $. Monsieur Trudeau a été invité comme conférencier pour l'ouverture au World Knowledge Forum de Séoul et pour la participation à un panel mardi. Ce premier contrat de conférencier signale le retour dans la vie active pour l'ancien premier ministre. Des images de l'événement ont été publiées à quelques endroits sur Internet et son allocution a fait l'objet de quelques articles dans une poignée de journaux asiatiques intitulés « Leadership et résilience en période de transition ». La présentation traitait des changements géopolitiques, de l'évolution de l'économie et de l'impact de l'intelligence artificielle. L'ancien chef des libéraux fédéraux est aujourd'hui représenté par une agence et sur l'affiche consacrée à Justin Trudeau, le prix indiqué pour l'inviter à prendre la scène entre dans la tranche des 100 000 $ ou plus américains, 138 442 $ canadiens, la fourchette la plus élevée. Alors, ça fait quand même un bon cachet par conférence. Et on parle aussi de Ken Dryden, puisque ses funérailles ont eu lieu. Dryden déjà inhumé en toute intimité. Et on dit que ça fait changement des autres funérailles qui ont été consacrées à, entre autres, Maurice Richard, à Guy Lafleur, mais c'est vraiment la volonté du défunt et de sa famille. Serge Chavard était présent avec son fils et il ne tarit pas d'éloge pour Ken Dryden, ce grand, grand monsieur. Et je termine avec la une du Devoir d'aujourd'hui. Des parents d'élèves doivent 23 millions au réseau public. Des centres de services scolaires du Québec accumulent des millions de dollars en frais impayés par des parents, notamment pour des services de garde et du matériel pédagogique, un problème difficile à gérer pour ces organisations qui doivent tenter de récupérer ces sommes afin d'équilibrer leurs finances sans précariser le parcours scolaire de nombreux enfants. Une photo aussi au Népal, le gouvernement renversé, son palais en flammes. De jeunes manifestants se prenaient en photo et faisaient la fête mardi à Katmandou devant le Sangha Durbar, siège des différents ministères et bureaux du gouvernement népalais. Le bâtiment a été incendié lors du mouvement protestataire contre l'interdiction des réseaux sociaux et la corruption qui a aussi poussé le premier ministre du pays à démissionner. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Hardly ever heard.
find a friend. I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon.
Billy Joel. Billy Joel et sa chanson Honesty.
Oui, quel beau souvenir. Allons-y avec vous, Isabelle.
Oui, alors, comme je vous disais, c'est cette chronique de Rosemée Autonne-Témorin. En fait, c'est la première fois que je lis une chronique d'elle. J'ai plutôt tendance à l'entendre à la radio. Et elle nous parle de résilience. La résilience, oui, encore elle. Et elle commence par nous dire que ça a été un drôle d'été. Elle dit « Je ne suis pas de retour de vacances pour vous déprimer parce qu'il y a bien assez de mauvaises nouvelles pour faire ça. Mais ça serait étrange d'entamer une nouvelle saison de chronique en faisant semblant de rien. Et si on se concentre strictement sur le climat, ben cet été, ça c'est elle qui le dit, je me suis souvent forcée à sortir courir en me disant « Ça ira pas en s'améliorant. Si tu peux pas bouger aujourd'hui, tu pourras probablement pas le faire dans 5 ans. » Adapte-toi puis cours, Morin. Donc, en fait, moi, c'est pas ça que je me suis dit du tout cet été. Moi, je me suis dit non, moi, je sors pas dans cette chaleur-là. Pour moi, il est déjà trop tard. Mais bon, ça, c'est moi, personnellement.
Vous avez été sage. Non, moi, je comprends pas les gens qui joguent quand il fait 40 avec humidex.
Non, mais moi non plus. Moi, quand je fais de l'exercice, c'est au gym à l'air climatisé. Ben, c'est peut-être pas bon pour le réchauffement climatique, mais c'est un air climatisé qui sert à plusieurs personnes en même temps. Donc, c'est peut-être un peu moins pire que si c'est chez nous à la maison. Mais donc, comme elle dit, c'est ça. Son discours intérieur était à la fois alarmant et rationnel, si une telle chose se peut. Et elle dit, j'imagine que le vôtre, ça n'est parfois comme ça aussi. Et donc, peut-être que, comme elle, on trouve un peu d'espoir dans ces initiatives qui nous permettent de passer à l'action. Évidemment, agir chacun de notre côté, ça ne va pas freiner la crise climatique, mais tant qu'à ruminer. Elle préfère le faire en cherchant un brin de contrôle dans les particules de cendre. Et donc, elle nous parle de ce projet Bûcher de l'asphalte. Moi, je connaissais pas ça. Je connaissais, comme je vous disais en introduction, Raïs Zaïdi, qui est le Pirate Vert, pour son initiative, en fait, de l'OBNL, Les Pirates Verts, qui récupère de la nourriture qui serait gaspillée pour la redonner aux gens qui en ont besoin. Mais on apprend ici que depuis 2015, à l'invitation du Conseil régional de l'environnement de Montréal, il y a des citoyens et citoyennes qui verdissent leur coin de l'île pour s'attaquer aux îlots de chaleur. Et donc, c'est vraiment une initiative qui s'appelle les bûcherons de l'asphalte. Vous irez voir si vous voulez, là, faites une petite recherche, on trouve facilement leur site. Et donc, c'est des initiatives pour verdir notre petit coin de ville. Et donc, à chaque fois qu'on verdit quelque chose, ben on réduit les îlots de chaleur. Et c'est vrai que devant la maison de Raïs Zaïdi, parce que sur la rue Desvéry, c'est là qu'il a distribué sa nourriture pendant plusieurs mois parce qu'il était à la recherche d'un local, c'est vrai qu'on voit plein de plantes. Et on appelle ça la bande de Desvéry verte et comestible. Et c'est comme ça que Raïs a transformé un pan du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il dit qu'il essayait de trouver des moyens d'attaquer le quartier pour produire plus de nourriture gratuitement. Évidemment, il le fait en redistribuant de la nourriture qui serait jetée. Mais il s'est dit, si tout le monde avait une jardinière devant chez lui, on pourrait faire des échanges. ma tomate contre ton aubergine, par exemple. Et donc, il a obtenu une subvention pour enlever des bouts de pavé carrément et planter des arbres fruitiers. Et c'est vraiment une super chouette initiative en tant qu'à planter des arbres, aussi bien que ces arbres-là nous donnent des fruits. Alors, 4 ans plus tard, on dit que les mûriers, pommiers et poiriers produisent déjà des fruits et on attend encore après le cerisier.
Ah, des mûriers! Il me semble que je n'ai jamais vu ça.
Ah, c'est beau et c'est très bon.
Oh, j'adore les mûres, mais je n'ai pas vu les mûriers.
Mais c'est vrai que comme c'est des petits arbres, ça,
ça vous fait tousser
des fruits plus rapidement. Oui, je suis désolée. Parallèlement à ça, donc, M. Zaidi a aussi confectionné des jardinières avec des matériaux recyclés et des vis trouvées par terre et a offert ces jardinières-là à des voisins. Et devant chez lui, dans de grands barils éventrés, il fait pousser des fines herbes, des haricots, des concombres, tomates, aubergines, framboises et toutes ces denrées-là sont accessibles en libre-service gratuitement. Donc, tu passes, tu te nourris. Il dit qu'il y a plusieurs personnes qui logent dans des immeubles résidentiels et ils n'ont pas nécessairement l'espace ou même le savoir-faire pour jardiner. Ils ont simplement à s'arrêter chez Raïs pour cueillir des légumes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il est cuisinier de formation. Il dit « J'accepte pas que quelqu'un ait pas accès à de la nourriture. La nourriture était là avant nous. C'est nous qui en limitons l'accès. J'essaie de faire tout ce que je peux pour rendre ça plus accessible. » C'est vraiment une belle philosophie. Et comme je vous le disais, là, il y a une banque alimentaire qui est orchestrée par M. Zaidi. Depuis, vraiment, c'est tout dernièrement, là, on a obtenu la nouvelle que le local était sécurisé. Donc, c'est au 3437 rue Sainte-Catherine-Est, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez chercher le groupe Facebook Les Prats Verts au BNL et vous allez avoir l'horaire là, des distributions de nourriture.
Ensuite, les Prats Verts ou le Prats Verts?
Ben, le nom de l'organisme, c'est les Pirates Verts.
Ah,
mais
d'accord.
Quand on parle du Pirate Vert, on parle souvent de Raïs Zaidi. Et donc, Madame Autonne-Témorin nous parle de l'ouvrage Vivre avec, qui est publié chez Flammarion par la géographe française Magali Regezazit, et dit qu'elle écrit « La science démontre qu'il existe 3 limites dures à l'adaptation des sociétés. Le niveau de réchauffement, la crise de la biodiversité et les inégalités socio-économiques. Donc, les gens ont chaud, des gens ont faim. Raïs Zaidi voit des manières d'améliorer leur sort dans les deux cas. Donc, 2/3, c'est quand même pas si pire. Après, il faut pas se faire des idées. Un autre passage du chapitre « On ne naît pas résilient, on le devient », donc toujours dans le même livre. Dans ce contexte où chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire compte, les villes, à travers notamment l'aménagement, l'urbanisme, l'architecture, sont des laboratoires à ciel ouvert de la bifurcation systémique que nous devons réussir, car qu'il s'agisse d'adaptation ou d'atténuation, les réponses techniques indispensables et les ajustements ponctuels, réactifs et curatifs ne suffiront pas. Donc, on a beau tout faire pour être créatif, il va falloir réinventer notre façon de vivre dans ce monde. Et nos villes sont celles qui peuvent, à grande échelle, nous permettre d'opérer ce changement. Et donc, à petite échelle, ben, chaque personne qui vit dans cette ville. En attendant, on reste des citoyens et des citoyennes dotés de pouvoir. Et là, c'est là qu'on arrive à la deuxième initiative qui n'a pas du tout rapport avec le Pirate Vert ou même avec l'alimentation, mais je vous en parle quand même puisque c'est dans la chronique. L'Université de Waterloo, qui est un centre de recherche appliqué, qui développe des solutions pour favoriser la résilience face aux inondations, aux incendies de forêt et à la chaleur extrême. On dirait qu'on décrit notre été, là, en fait nos derniers étés. Et donc, sur son site web, le Centre Impact d'adaptation au climat propose des infographies pour qu'on puisse mettre en œuvre différentes mesures sous notre toit. Je suis allée voir le site, il est traduit en français, donc vous pouvez voir, si vous cherchez l'Université de Waterloo, Centre Impact d'adaptation au climat, vous allez le trouver. J'ai pas pu vérifier si les infographies sont accessibles, donc si des descriptions là, pour les personnes qui n'ont pas accès à l'image. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que dans chaque infographie, on suggère des solutions gratuites, des outils à moins de 250 $ et des travaux de plus de 250 $. Par exemple, pour contrer la chaleur, on nous suggère de mieux utiliser la ventilation naturelle de notre bâtiment, de cultiver des plantes grimpantes, hein, parce qu'en ayant des plantes qui grimpent sur nos murs, ça réduit la chaleur qui va pénétrer dans le bâtiment. Ou encore poser des pellicules par soleil sur nos fenêtres ou végétaliser notre toit. Donc, évidemment, c'est pas tout qui est accessible à tous, mais moi, j'ai vraiment pris cette idée-là. Mettre des pare-soleils sur mes fenêtres, j'avais pensé à ça pour avoir être un peu plus privé. Uh-huh. Mais dans l'optique de réduire la chaleur, c'est aussi très, très intéressant parce qu'on a des fenêtres qui sont très au soleil, puis c'est vrai qu'en été, ça nous réchauffe drôlement. Et donc, c'est ça, Rosemée Autant-Témorin dit, j'ai beaucoup appris en consultant ces outils, alors je me suis dit que vous aimeriez peut-être en profiter aussi. Et dans tout ce bordel, la force du nombre compte, comme le résume le pirate vert, donc en concluant l'article. Qu'est-ce qu'on gagne à remplacer de l'asphalte par de la végétation, Raïs? Une meilleure vie. Et plus les gens embarquent, plus on va aider tout le monde. Alors, moi, je pense que c'est vraiment encore une bonne raison là, de chacun de notre côté. Comme elle dit, on peut pas... nos petites initiatives, on a l'impression que c'est des gouttes dans l'océan, mais je pense que si chaque personne qui lit cet article-là ou qui entend parler de ces initiatives-là fait un petit quelque chose chez lui, ben, à la force du nombre, on peut faire une différence.
Team Pirate Vert.
Voilà.
On peut le voir hein, dans l'article, c'est tout un personnage. Là, c'est vrai qu'il fait pirate.
Ah oui, non, vraiment.
Tout
oui,
un look.
On comprend tellement le surnom, tout à fait.
En bédaine, avec des tatouages, barbe
des
grise, cheveux longs. Oui, c'est ça, il y a des tresses. Là. Comment on appelle ça? Des dreadlocks?
Des dreadlocks, oui, c'est ça.
Oui. Et un beau sourire, des yeux bleus perçants. Merci c'est Isabelle bon. Pour cette lecture, puis vous restez avec nous?
Oui.
D'accord. Je reviens au remaniement ministériel. Il y a de moins en moins de suspense. Il n'y en a pas eu, il n'y en a pas finalement un nouveau duo. C'est Tommy Chouinard encore dans la presse des femmes. Se retrouve à la tête des réseaux scolaires, collégiales et universitaires. Sonia Lebel quitte le Trésor pour l'éducation en remplacement de Bernard Drainville. Martine Biron succède à Pascal Derry à l'enseignement supérieur. Restez pour la chronique musicale de Daniel Lachance.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Ressemble à un bunker, ne plus courber.
Repartir à zéro, c'était Joe Bocan, bien sûr.
Joe Bocan.
Daniel Lachance est là, en studio, pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui, Daniel, vous allez rendre une sorte d'hommage à Germain Gauthier, quelqu'un qui est resté dans l'ombre et pourtant qui a fait des choses assez extraordinaires, qui a été immensément productif et pour notre chanson québécoise. Alors, ben, je vous laisse aller.
Oui.
Germain Gauthier qui est mort, ça fait pas si longtemps. Là.
Il est décédé le 28 août dernier. Il avait 75 ans, donc il était né en 1950. Il était né à Québec, il est décédé à Montréal le 28 août. Et c'était un auteur, mais au début, c'est un guitariste. OK?
Ouais.
C'est un auteur, compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur et guitariste, bien entendu. Et quand j'ai vu l'annonce de son décès, me semblait que son nom me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à trouver qu'est-ce qu'il avait fait. Ça, ça me dérangeait. Je me disais,
ben oui,
ça, tu
peux
pas.
Parce que vous êtes dans la musique.
Donc, j'ai commencé à fouiller un peu et je me suis rendu compte, effectivement, deux choses. Premièrement, quand on est un artiste québécois, je pense, peu importe l'importance, c'est difficile de trouver beaucoup d'informations sur le sujet par rapport à des artistes internationaux, américains, britanniques, n'importe quoi.
À moins qu'on s'appelle Céline Dion.
Oui, et Céline Dion, justement, j'en parlais tantôt avec Mathieu, je considère Céline Dion comme une artiste internationale. C'est pour ça qu'on peut avoir plein d'informations sur elle. Mais des personnes qui ont fait une carrière seulement au Québec, je trouve que là-dessus, on n'est pas fort pour documenter. On a de la difficulté à trouver des choses importantes. D'ailleurs,
ça me surprend ce que vous dites, parce qu'il y a quand même... Ben, il y a des livres, il y a des articles.
Oui, mais quand on regarde, mettons, on va sur Google, il n'a pas encore allumé assez, il ne va pas lire des livres Google, il s'alimente seulement sur ce qui se trouve.
On parlait d'intelligence artificielle.
Ouais. Donc, malheureusement, pour Germain Gauthier, les informations que j'avais, je pense que c'est les mêmes informations que d'un journal à l'autre, on se transmettait, tout simplement. Mm-hmm. Mais j'ai quand même réussi à trouver des choses intéressantes dans le sens que toute la musique qu'il a écrite, qu'il a composée pour plusieurs artistes différents au Québec, il a vraiment laissé sa marque. Et c'est dommage que son nom ne soit pas plus connu parce qu'effectivement, il a fait des choses très marquantes.
Alors, on va le connaître un peu plus
grâce
à vous. Oui. Et c'est quelqu'un qui a commencé... il voulait faire une carrière lui-même.
Oui, il voulait faire une carrière lui-même.
Il avait un beau petit look.
Oui, oh oui, vraiment, honnêtement. Ça, c'est une autre chose que je m'expliquais mal. Comment ça se fait que la carrière de ce gars-là n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est une question de timing, de promotion? C'est probablement plusieurs choses en même temps, plusieurs éléments. Mais il y avait un look... C'est un très bon musicien. Il écrivait des choses intéressantes. Il essaie de partir sa carrière solo. Ça marche plus ou moins.
Il a essayé dans les années 70?
Les années 70. Il avait commencé dans les années 60. Donc, dans les années 60, il n'était pas vieux. Là. Il est né en 50. Donc, il était ado ou jeune adulte. Il a commencé après ça, quand il a commencé à être un petit peu plus, je dirais, dans le milieu professionnel, il avait commencé comme guitariste pour Claire Lepage. Vous vous souvenez de Claire Lepage?
Claire Lepage, oui, je la vois là dans ma tête.
Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui s'en souviennent parce qu'elle a eu une carrière quand même assez courte, je dirais.
C'est elle qui chantait Bang Bang.
Bang Bang.
Ouais,
donc, elle
reprise.
Était, elle avait un mettons qu'elle était plutôt dans le domaine de la musique très pop, bubblegum, j'appelais dans les années 60.
Mais elle
avec
avait une
Bang
voix grave,
Bang.
Je me souviens.
Oui, une voix assez grave. Elle aussi, elle avait un look, elle aurait pu, je pense, aller beaucoup plus loin. Et elle a changé un petit peu, elle a un petit peu réorienté sa carrière début des années 70 avec son groupe Claire Lepage et compagnie.
Ah,
et
ça,
c'est
je
là que Germain Gauthier... D'ailleurs, je trouvais ça important parce que je pense que c'est probablement là, d'après les informations que j'ai eues, c'est probablement là que Germain Gauthier a commencé sa carrière dans le milieu, je dirais, plus professionnel, dans le réseau au Québec. Il était le guitariste de Claire Lepage et compagnie. Et je pense que c'est lui qui avait écrit cette chanson-là, ben la musique au moins. On va écouter juste un court extrait d'une vingtaine de secondes de Claire Lepage et compagnie.
Ça a été un succès, ça?
Je pense pas que ça allait marcher beaucoup, non. Mais moi, je me souvenais de l'avoir déjà entendu Parce que à l'époque, c'est sûr, je commençais à jouer de la guitare et je me disais, OK, là, elle a quelque chose. Là, elle tient quelque chose. Parce que là, je trouvais que ça commençait à sonner un peu plus adulte comme musique là,
oui.
par rapport à ces Bang Bang et compagnie. Et là, j'avais remarqué...
Mais Bang Bang, oh ouais, OK.
Ouais, c'était cute, là, mais c'était ouais. quand même bon.
Et... C'est le succès de Nancy Sinatra, je crois.
Je pense, bang, oui. Bang. Je sais que c'est une adaptation en français mm-hmm. d'une chanson américaine. Là. Mais bon, là, je trouvais... Et puis là, je me disais, OK, là, elle a été chercher un très bon guitariste. Là, ça sonne, ça commence à être intéressant. Par contre, c'était probablement pas assez commercial, ça n'a pas marché beaucoup. Mais je soupçonne que c'est à partir un peu de là que Germain Gauthier s'est fait connaître dans le milieu. Et là, je pense qu'il a commencé à être un petit peu plus en demande et il a commencé à travailler avec plein d'autres mondes.
Il est en demande à titre de guitariste ou de compositeur?
Bien, un peu tout, je pense. Ouais. Il a probablement travaillé comme guitariste. Ça, il manque des infos beaucoup là-dessus. Ouais. Comme je disais tantôt, là, j'aurais aimé avoir un peu plus, mais bon... je pense qu'il a été probablement en demande comme guitariste de studio, parce que c'est un très bon musicien. Et il y en a qui lui ont demandé aussi s'il pouvait écrire des chansons. Est-ce que vous vous souvenez un peu de quand Donald Lautrec aussi, à la même période, a essayé de faire un petit peu un changement dans sa carrière?
Oui, avec Stéphane Venn, là, le mur derrière la grange.
Oui, effectivement. Mm-hmm. Et saviez-vous que le mur derrière la grange, c'est Germain Gauthier qui a écrit la musique?
Je ne le savais point.
Et moi non plus. Et je l'ai appris justement cette semaine en regardant tout ça. Je me disais, bien, finalement...
C'était bon, ça?
Il y a pas... Ben oui. Puis ouais. moi, j'étais déçu que Donald Lautrec... abandonne un peu sa carrière ouais. de chanteur suite à ça, puis je pense qu'il est devenu animateur de quiz à la télévision, tout ça, je me disais, mm-hmm. lui aussi, il me semble que là, il tenait quelque chose qui était plus québécois, parce qu'à l'époque, ça commençait là, avec les Charlebois. Ouais.
Je pense qu'on l'avait proposé, pardon, cette chanson-là, à Beau Dommage. Je me semble que j'ai entendu
possible,
parler
ouais.
de ça.
Mais je sais que quand j'avais... Il y a un de mes cousins, à peu près mon âge, qui avait acheté cet album-là de Donald Lautrec, Fluffy, puis je me disais, wow! Enfin, on chante en québécois, pas juste ouais. en français, et on chante des choses qui nous ressemblent. Donc, il n'y avait pas seulement Charlebois et Claude Dubois et tout ça là, qui faisaient des chansons ouais. plus québécoises.
Malheureusement, ça n'avait pas levé pour Donald Lautrec. On voulait l'entendre chanter Alléluia puis Héloïse encore.
Et voilà. Donc, il a écrit ça pour Donald Lautrec. Et dans les années 70, il y a aussi une chanson qui a marché beaucoup de Pierre Létourneau, que tout le monde connaît certainement tous les jours de la semaine.
Ah oui.
C'est Germain Gauthier qui a fait la musique
oh, wow.
de ça.
C'est bon,
ça,
c'est
ça, je trouvais que ça sonnait très McCartney. De...
C'est vrai.
Donc,
ouais.
je me disais, OK, là, il va chercher les influences d'ailleurs. Il fait quelque chose de québécois et ça marche. Je ne savais pas encore c'était qui, Germain Gauthier. Mais tout ça, je me disais, ça marche. Il a l'affaire, le gars, vraiment. Et il a travaillé aussi avec René Claude.
Ah, oh, wow, qu'est-ce qu'il a chanté?
Gars comme toi, ouais. c'est okay. lui qui a écrit ça. Ça commence comme ça, des histoires d'amour. Mm-hmm. Donc, on entend, c'est des chansons qui ont été très connues. C'est des chansons, que, juste à voir le titre, on a la mélodie dans notre
tout
tête.
Tout à fait.
On la reconnaît.
Ça a été diffusé à la radio, à ouais,
et d'ailleurs, je disais tout le temps, j'ai essayé de parler moins, mais si on va écouter un extrait, justement, des chansons qu'il a écrites dans les années 70 pour ces artistes-là.
Demain, des histoires d'amour. Ça commence comme ça, les histoires d'amour.
Oui, il y avait le sens juste, du hook, hein? C'est ouais, un bon mélodiste.
Ouais, juste pour ces chansons-là, je pense qu'il devrait déjà être beaucoup plus connu. Son nom devrait circuler partout.
Connu et reconnu.
Je n'en revenais pas moi-même quand j'écoutais tout ça. Et pendant ces années-là aussi, c'est sûr qu'il voulait faire sa carrière solo, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez écouté un peu, mais je suis certain que les guitares, c'est lui qui les jouait toutes. Là. Donc, déjà là, ça sonnait très, très bien. Mm-hmm. Donc, il a décidé qu'il pouvait composer des choses pour lui-même aussi et essayer de faire une carrière solo. Et comme vous disiez tantôt, il avait un look, le gars, quand même. Là.
Il était très joli.
Oui, oui, il avait vraiment un look, il avait une bonne voix. Il écrivait des choses intéressantes. Et je ne sais pas, encore là, je me
Qu'est-ce qu'il a fait? Ça n'a pas marché?
Probablement qu'il y a quand même des choses qui ont marché un peu dans les années 80. Ouais. Peut-être dans les années 80, moi, j'étais ailleurs, c'est pas ce que j'écoutais, là. Mais j'en reviens pas encore comment ça se fait que sa carrière...
Il y avait quand même pas mal de compétitions aussi.
Oui, oui. Et peut-être aussi une chose, il y a un détail, moi, qu'on avait fait remarquer au début quand on a écouté la chanson de Joe Bocan. C'est très intéressant ce qu'elle a fait. Ça sonne très années 80. Il y a un son des années 80 qu'on reconnaît facilement. Ouais. Et je pense que Germain Gauthier, dans ses compositions à lui, dans ce qu'il produisait pour lui, il sonnait pas nécessairement années 80. Il sonnait rock, il sonnait lui-même, mais il n'y avait probablement pas le son qui fait que...
Mais là, il y avait 30 ans dans les années 80, mais c'est un peu avant qu'il a essayé de percer aussi.
Oui, ça c'était... Ouais. Mais il a fait des choses dans les années 70 et 80 aussi, parce que sa carrière, elle s'est vraiment étirée en parallèle avec ce qu'il écrivait pour les autres. Mais peut-être, c'est ça, je ne sais pas, j'essaie de trouver une raison, parce que je ne comprends pas pourquoi les chansons qu'il écrivait...
Il y a des choses comme ça qui nous échappent. Hein?
Oui. D'ailleurs, je vais vous faire écouter, pour qu'on vienne vraiment comprendre, là, je vais vous faire écouter quelques extraits de choses que lui, il a publiées à son nom.
D'accord.
Dans les années 70 et 80.
On a plein de références, on entend plein de références. On parlait de George Harrison, Crosby, Stills, Nash & Young, et Mathieu disait c'est le Jean-Jacques Goldman du Québec qui a une voix un peu au perché.
Ouais,
et pourtant, ça n'a pas percé plus qu'il faut.
On comprend pas, pourquoi ça n'a pas percé plus.
Mystère.
Comme on disait hors d'onde, peut-être qu'il y a beaucoup une question de promotion là-dessus.
Ouais.
Quand un artiste lance quelque chose de nouveau, ça prend beaucoup de promotion.
Une super
équipe. Il faut qu'il soit partout en même temps, à toutes les émissions de télé, à toutes les émissions de radio, tout ça. Peut-être que de ce côté-là, ça a manqué un peu. Et peut-être aussi qu'étant donné qu'il était très occupé pour travailler pour les autres, peut-être qu'il faisait passer la carrière des autres avant la sienne.
Ça se peut aussi,
Je ne sais pas. C'est une possibilité. Mais juste pour vous résumer, les extraits qu'on a entendus, c'était « A Boy Needs Girl », « Donnez-moi une guitare, Mlle Julie » et « T'en viens-tu ». J'avais pas de souvenir de ces chansons-là, mais je me dis que me semble que ça aurait pu marcher.
C'est de la pop légère qui s'écoutait bien.
C'était bien fait. Et d'ailleurs, on entend beaucoup les guitares aussi là-dedans. C'était du très, très bon travail. Et quand on disait des influences de beaucoup de monde, le dernier extrait qu'on a entendu, il y avait de la guitare slide qui ressemblait beaucoup à du George Harrison. Uh-huh. Donc, je comprends que ces influences, c'était beaucoup les guitaristes.
Il a écouté les Beatles, les guitaristes en général.
Donc, pour continuer avec... On va revenir avec la chanson de Joe Bocan qu'on a entendue au début.
Repartir
à zéro. On disait que ça sonnait très années 80. Ça sonnait très radiophonique de ce qu'on entendait sur les émissions de radio dans les années 80.
Ça a été ça, un succès monstrueux. Là.
Oui, et
la façon
que c'est arrivé, de ce que j'ai compris, c'est Jean-Claude L'Espérance, le producteur Jean-Claude L'Espérance, qui est malheureusement décédé il y a environ un an, je pense au mois d'août 2024. C'est lui qui avait demandé à Germain Gauthier de réaliser l'album de Joe Bocan. Il n'avait pas demandé de composer, de jouer, il a demandé de réaliser l'album. Et de ce que j'ai compris, je pense que cette source-là, je la tiens de la Socan. Ce que j'avais compris, c'est que Germain Gauthier était un peu mal à l'aise avec ça. Il ne se voyait pas vraiment réaliser un album de Joe Bocan parce qu'il trouvait qu'elle était très théâtrale, était très champ gauche.
Oui, pour lui, c'était pas son monde.
Lui, il disait « je suis plus dans la musique pop, radiophonique, tout ça. Peut-être que je ne conviens pas, je ne suis peut-être pas la bonne personne. » Puis là, Jean-Claude L'Espérance, il aurait dit « Justement, c'est toi, j'ai besoin. On veut qu'elle joue à radio. On veut que ça fonctionne. On veut que tu fasses un package qui va être plus vendant, plus commercial. » Donc, il a travaillé là-dessus. Et la chanson qu'on a entendue au début, c'est Daniel Faubert qui a écrit les paroles. Donc, ils se sont mis à travailler les trois ensemble, Daniel Faubert, Joe Bocan et Germain Gauthier. Et quand Germain Gauthier a vu le texte de Daniel Faubert de cette chanson-là, il a eu une inspiration, il a écrit la musique. Donc, c'était pas comme une commande, celle-là. C'est arrivé parce qu'il a fait « OK, ça, je l'ai dans ma tête, cette chanson-là. »
Le texte l'a inspiré.
Le texte l'a beaucoup inspiré.
Donc, et la voix de Joe Bocan, j'imagine.
C'est ça. Et finalement, cette chanson-là, « Repartir à zéro », c'est devenu un classique de la Socan depuis 2000. Je pense à gagner des prix aussi. Donc, ça a été très, très marquant dans la carrière de Joe Bocan. Je ne sais pas si c'est son plus grand succès, mais c'est vraiment un...
Ça fait partie d'eux, avec Paradoxal.
Oui, c'est une de celles qu'on connaît le plus. Il a travaillé aussi avec Nicole Martin.
Oui.
Là, on est dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Il travaillait avec Nicole Martin. Et je pense que certains textes des chansons de Nicole Martin, c'était Gilles Valiquette. Gilles Valiquette écrivait les paroles et Germain Gauthier écrivait la
belle-père.
Musique. Belle-père.
Beau trio.
Oui. Il a travaillé avec Diane Dufresne aussi.
Ah oui?
La chanson Oxygène,
oui,
c'est
vrai.
Qui a fait de la musique.
Ça, c'est théâtral.
Ça, c'est très théâtral aussi, parce que je me disais vraiment, pourquoi il pensait qu'il n'était pas... Mais je pense qu'il a ramené ça, justement, à des formats très écoutables. Donc, on va écouter les extraits aussi de cette période-là.
Il fait de la magie.
Je l'aime quand il danse pour moi. Dis-lui bien si tu le vois. Dis-lui que
Je pensais que je n'aurais pas assez à dire, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'extraits.
Wow! Hey, je ne savais pas qu'il avait fait la musique aussi de Calgary. Il y a plein de choses qu'on apprend sur lui. Là. Il a aussi fait la musique de L'amour a pris son temps, le film qui... Ben, La garde des tuques.
Ouais.
L'amour a pris son temps, interprété par Nathalie Simard.
Oh, wow!
Daniel, continuez.
Oui, donc les extraits qu'on vient d'entendre, on a entendu deux chansons de Nicole Martin, « Dis-lui que je l'aime et ne t'en va pas », et « Call Girl » de Nanette Workman, qui est une chanson qui a été très connue aussi, et « Oxygène » de Diane Dufresne, bien entendu, tout le monde connaît ça. Donc, il y a tellement de choses qu'il a écrites. Et saviez-vous aussi que c'est lui qui avait fait la musique de La guerre des tuques?
Oui, c'est ce que je disais.
Oui, la chanson de oui, effectivement, Nathalie Simard, L'amour a pris son temps. Donc, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi son nom n'est pas plus connu.
Mais là, on le connaît
et
un peu plus grâce à vous.
Oui, qu'aujourd'hui.
Ouais. Il y aura des funérailles.
Les funérailles
auront
lieu.
Parce qu'il est mort le 29 août.
Oui, les funérailles auront lieu le 20 septembre de 13h à 17h à la chapelle du Salon Mémoria sur Jean Talon. À Montréal.
Alors, nos condoléances à toute sa famille.
Oui.
Et puis, merci, Daniel, de nous avoir parlé de Germain Gauthier, un homme de musique,
oui.
un grand artiste.
Et merci à Germain Gauthier, parce qu'on a besoin de compositeurs comme lui. On a vraiment besoin de
ça. On va se laisser justement avec une autre chanson qu'il a composée.
Une chanson qu'il a écrite pour Rock Voisine, avant de partir.
Merci, Isabelle Falardeau. Salutations à Serge Bradet. Et à la prochaine, Daniel.
Merci, à la prochaine.
Bonne semaine. Bye.
Dans ces murs, c'est trop dur d'oublier ces nuits d'aventure où tu m'as vu sans armure et mon corps sur ton corps. J'en voulais encore, toi et moi. J'ai pas voulu. Ton amour ferait demi-tour avant de partir. Laisse-moi dormir tout contre toi avant de partir. Que je te respire une autre fois avant. Sans éclat, sans blessure, puis tu m'as pris sans filature et planifié ma capture dans tes bras. Ce soir-là, j'en voulais encore, toi et moi. J'ai pas voulu. Ton amour ferait demi-tour avant de partir. Laisse-moi dormir tout contre toi avant de partir. Que je te respire.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. Le paysage souffrira sur nous.
Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire à 100 000 à l'heure, je t'entrerai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs.
Quand l'été reviendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleue, à ciel ouvert. J'irai chercher là-bas, jusqu'au diable Vauvert, tous les étés de l'univers. Pour toi, nous irons faire l'amour sous des soleils de feu, quelque part où le ciel est bleu, toujours. Et si la terre est ronde, nous roulerons autour, vers l'autre bout du monde. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire à 100 000 à l'heure, je t'en ferai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur mon front brûlant, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants.
On prend des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Alors Julien, un peu plus d'étudiants étrangers pour le post-secondaire francophone, c'est dans Franco-Presse.
Oui, on parle du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire qui a été reconduit pour l'année. On a même augmenté le nombre total d'étudiants. Pour vous expliquer ce qu'est ce projet pilote-là, c'est qu'il a été annoncé en août 2024, plusieurs mois après que le gouvernement ait annoncé qu'il allait imposer une limite au nombre total d'étudiants étrangers qui pourraient étudier au Canada. Ça, c'est arrivé au début de l'année 2024. Il y a plusieurs établissements postsecondaires francophones de l'extérieur du Québec qui comptent sur ces étudiants-là pour augmenter leurs revenus. Donc, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne avait souligné que si cette règle, s'il n'y avait aucune règle spéciale qui était accordée pour les établissements francophones, ils seraient dans une situation précaire. Donc, l'association a même déposé une plainte au commissaire aux langues officielles pour signaler que cette directive-là ne respectait pas la charte des droits pour l'éducation en français. Donc, pour la première année, quand ce projet pilote-là a été créé l'année dernière, on avait autorisé 2300 étudiants à venir étudier en français à l'extérieur du Québec, avec la confirmation du renouvellement qu'on vient de confirmer de notre côté la semaine dernière. Le total passe à 2970.
Et puis, maintenant, une nouvelle tirée du Moniteur acadien. Un commerce de bouctouche revient rapidement au bilinguisme après une tempête sur les réseaux sociaux.
Quand Mathieu Gérald fait des arrêts réguliers au Tim Hortons de Bouctouche, qui est juste au nord de quelques kilomètres au nord de Moncton, il a remarqué avec colère que le menu n'était pas affiché dans les deux langues. Il était seulement en anglais, alors qu'habituellement, il était toujours bilingue. Le président, M. Gérald est le président fondateur du Cercle acadien de la langue française, donc il ne peut pas rester silencieux devant ce changement-là. Et il a dénoncé l'écart de conduite sur ses réseaux sociaux. Son affichage est devenu viral, les internautes appelaient au boycottage de Tim Hortons. Il y en a d'autres qui suggéraient plutôt, je ne sais pas si c'était une blague ou faire rire ou si c'était une vraie suggestion, de demander aux caissiers et caissières de traduire le menu en direct pour faire leur commande. Finalement, quelques jours plus tard, le français est revenu sur le menu, quoique partiellement au début. M. Gérald et d'autres militants pour eux, c'est un rappel qu'il faut pas baisser la garde et qu'il faut demander nos services en français de façon constante pour rappeler aux entreprises et au gouvernement les besoins de cette population-là.
La vigilance a toujours sa place. On poursuit maintenant avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui presse Ottawa d'agir pour un financement équitable de la francophonie ontarienne. C'est dans le Nord qu'on en parle.
Le Nord de Hearst, où la FO dit avoir déposé son mémoire au gouvernement fédéral en prévision du budget qui va être présenté à ce qu'on attend au mois d'octobre. Puis il demande, oui, un financement plus équitable de la francophonie ontarienne. Selon la FO, les organismes franco-ontariens reçoivent moins d'argent que ceux des autres provinces, alors que l'Ontario compte le plus grand nombre de francophones à l'extérieur du Québec, comparativement aux autres. Et donc, il y a plus d'associations et des associations sont moins bien financées. De plus, l'association demande que le plan d'action national demande plutôt un plan d'action national sur la main-d'œuvre francophone et bilingue pour accélérer la reconnaissance des qualifications et pour faciliter la mobilité des travailleurs. Elle recommande aussi que les ententes de transfert en santé des provinces incluent des clauses linguistiques contraignantes pour la collecte de données, l'usage de la langue. Ce qu'on veut dire par là, il n'y a pas beaucoup d'ententes entre le fédéral et les provinces où le fédéral peut forcer les provinces à offrir des services en français. C'est laissé à la discrétion des provinces et on ne sait pas toujours si c'est bien fait. Ben, finalement, la FO souhaite l'ajout de 80 millions de dollars au financement du postsecondaire francophone à l'extérieur du pays, à travers le pays.
OK. Alors, après le Nord, on passe à l'Express.
Oui, l'Express va du côté de la région de Durham-Peterborough où on nous donne des exemples de collaboration. Dans cette région-là, on compte un plus petit nombre de francophones. C'est quand même environ 13 000 selon Statistique Canada, ce qui représente 2 % de la population, mais elle serait en croissance. Pour cette raison, les organismes francophones misent sur l'entraide pour souvent mieux s'imposer et passer leurs demandes. Ils ont les mêmes défis que les autres, des petits budgets fragiles, du roulement de personnel. Donc, mutualiser les ressources, c'est une piste pour mieux travailler. Du côté de l'Association canadienne-française de l'Ontario pour Durham-Peterborough, on dévoile que la perte de subventions ponctuelles, en partie celle qui avait été accordée dans le temps de la COVID-19, donc la perte de ces subventions-là a réduit son budget. Et il demande aussi au conseil scolaire d'accélérer la création d'écoles francophones dans la région. Et apparemment, il y a du financement qui a été accordé par la province pour des écoles et on attend encore l'annonce de leur construction.
Le choc culturel, un phénomène qui s'apprivoise.
C'est l'eau vive qui nous raconte ça parce que dans le cadre de son travail sur le bien-être mental, la francescoise Francine Proulx-Kenzel se penche sur le choc culturel et les manières de conscientiser le public francescois et canadien à cette réalité-là. Le choc culturel, ça peut toucher tous les nouveaux arrivants, mais chacun le vit différemment. Puis évidemment, c'est quelque chose de courant chez les immigrants francophones en milieu minoritaire qui, en plus de déménager, des fois se retrouvent dans un milieu où ils ne peuvent pas parler français aussi couramment qu'ils le croyaient. Elle dit qu'il y a 4 phases en général au choc culturel. Le premier, c'est la lune de miel, donc pas encore le choc, mais quand même un certain choc dans la découverte des nouvelles choses, mais c'est excitant dans cette phase-là. Après ça arrive la crise qui peut être provoquée par l'ennui ou la vision critique sur le nouvel environnement. À ce moment-là, ils se demandent s'ils restent ou s'ils repartent chez eux. Puis l'ajustement où la personne va adapter ses habitudes à son nouvel environnement, puis l'adaptation, la phase finale où tout va bien parce qu'on s'est habitué, puis qu'on a décidé de rester, puis que tout est en place pour que notre vie fonctionne. Selon la chercheuse, le choc se vit beaucoup mieux quand on sait que ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de prévenir les nouveaux arrivants et l'encourage qu'on explique ce choc-là aux nouveaux arrivants. Mais ça peut être vu comme quelque chose de positif parce que c'est quand même un choc qui survient par le choix. Ils ont choisi de déménager, d'aller dans un autre pays. Donc, ça fait partie du développement et de l'ouverture de la personne.
Mm-hmm, c'est sûr. Par ailleurs, et en terminant, 14 millions de dollars pour sauver les postes d'assistants scolaires dans les territoires du Nord-Ouest.
Depuis 2018, le système éducatif des territoires a reçu 211 millions de dollars grâce au principe de Jordan et à l'initiative de l'enfant d'abord pour les Inuits du gouvernement fédéral. Je vous rappelle ce qu'est le principe de Jordan. Ça vient d'un jugement du Tribunal canadien des droits de la personne qui exige que les enfants des Premières Nations ne soient pas confrontés à des lacunes ou à des retards ou à des refus d'accès aux services gouvernementaux en raison de leur identité autochtone. C'était arrivé avant et le tribunal a dit qu'il ne faut plus que ça arrive. Le financement, dans ce cas-ci, servait surtout à combler des postes d'assistants de soutien en classe dans les écoles. Selon la ministre de l'Éducation, Caitlin Cleveland, c'est des rôles essentiels. Ce n'était pas quelque chose d'optionnel. C'est le fédéral qui a apporté des changements récemment en lien avec cette contribution-là qui a créé l'incertitude au TNO. Donc, on est en train de perdre la subvention qui permettait de payer ces postes-là. Donc, le budget pour garder ces 205 assistants-là n'existe plus, ne vient plus du fédéral. Le gouvernement du territoire a annoncé qu'il allait fournir 14 millions de dollars pour les garder en poste pour l'année. Je précise que c'est une mesure temporaire parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ça éternellement. Alors, tout le monde se croise les doigts pour que le fédéral reprenne ses responsabilités rapidement.
Alors, c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir, puis on va se retrouver la semaine prochaine, mais au revoir, plutôt bonjour, parce qu'on ne se voit pas. Merci beaucoup, Julien.
Merci, bonne semaine.
Bonne semaine.
I was running out of time, inspiration hard to find. Across the Rio Grande, take me to your city lights, out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. But if I stayed in the middle, just one more night, just one more night. I knew a girl with a diamond crown, grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette. Show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down tempo. Low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night. Oh. Tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night.
La chanson Laredo de Leon Bridges.
Merci Mathieu. Mylène Moisan, dans Le Soleil du 4 septembre, les Invalides remontent au front. Le gouvernement du Québec est en train de s'engager dans un insensé bras de fer juridique pour contester un jugement qu'il a reconnu coupable d'avoir bafoué pendant presque 20 ans les droits des aînés invalides. Il pourrait se rendre jusqu'en Cour suprême et dire que toute cette saga aurait pu être terminée il y a 2 ans, quand le Tribunal administratif du Québec, le TAC, a tranché que les pénalités imposées aux invalides de plus de 65 ans contrevenaient à la Charte des droits et libertés du Canada. En gros, cette pénalité était une forme de discrimination basée sur le handicap. Mais non, le gouvernement a décidé de faire appel. Les audiences commenceront dans 3 semaines, pendant 3 jours. Les invalides réclameront alors une correction rétroactive de l'injustice qu'ils ont subie de 1997 à 2024. Le gouvernement s'y opposera, comme il s'était opposé pendant des années à abolir cette pénalité. Le jugement du TAC, le Tribunal administratif du Québec, rendu en juillet 2023, lui a forcé la main et il l'a enlevé en janvier. Pour la CAQ, ça suffit. Le gouvernement veut faire l'impasse sur le passé, comme si le fait de mettre fin à l'injustice effaçait les dommages infligés avant. Kevin McLean ne rêve pas en couleur. Celui qui a repris le flambeau de son père sait très bien qu'il n'est pas réaliste d'aller chercher une rétroaction pour les presque 2 décennies où les invalides ont été pénalisés. Ce serait énormément d'argent, même si dans les faits, il a été engrangé au fil des années sur leur dos. Même si le régime de retraite du Québec, le RRQ, contient 141 milliards d'actifs nets. Il y a une marge de manœuvre, disons. Richard McLean est le premier à s'être levé pour obtenir justice. Kevin a continué pour ceux qui sont encore là. Le retrait total de la pénalité en 2025 est un gain extraordinaire. Beaucoup de personnes m'écrivaient à la suite de l'annonce. « Je vais recevoir 230 $ de plus par mois. Je vais en recevoir 180. » Ils étaient très reconnaissants. Des personnes m'ont dit « Les banques alimentaires, c'est peut-être chose du passé pour moi maintenant. » Ou « Je vais pouvoir m'acheter des lunettes qui sont dues depuis très longtemps. » Ça a eu un impact significatif pour plusieurs personnes. On parle des plus vulnérables de notre société. Richard McLean, avec Lugo, son 2e chien d'assistance, à l'époque où il recevait sa rente d'invalidité. On le voit en photo sur le soleil. Au fil des années, des milliers d'invalides pénalisés ont été privés d'argent, dont il aurait eu grand besoin. On parle d'entre 1 700 $ et 2 000 $ par an au cours des 5 dernières années. Retraite Québec calcule qu'ils sont environ 28 000 personnes à avoir écopé. Ça fait beaucoup d'années qu'on a injustement appauvri. Mais la CAQ ne veut rien entendre. Ça fait longtemps qu'on sait que les audiences sont les 24, 25 et 26 septembre. J'avais espoir que le gouvernement nous approche pour faire une entente hors cours, pour au moins mettre un baume sur la misère humaine. Là, il se dit « J'ai enlevé la pénalité, j'ai fait mon bout de chemin, puis là, je m'assitue. » Tant pis si ça prend 10 ans. Tant pis si ça va jusqu'en Cour suprême. Tant pis si les invalides n'ont pas les moyens de se défendre. Ils ont réussi à ramasser 15 000 $ en faisant une campagne de sociofinancement, mais cette somme est dérisoire par rapport à ce que coûte un avocat, encore plus dérisoire par rapport à ce que dépense l'État pour ne pas avoir à réparer une injustice qu'il a créée. L'avocate Sophie Mongeon défend la cause pro bono, gratuitement. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu découragée qu'on arrive aux audiences et qu'il n'y a aucune porte de sortie. Il n'y a pas de tentative de négociation, il n'y a rien. C'est beaucoup d'entités qui sont appelées à la table. C'est le Tribunal administratif du Québec, c'est le procureur général, c'est la Cour supérieure. C'est beaucoup de fonds qui sont brassés. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses pour quelque chose qui, selon moi, pourrait être réglé. Il y a au moins un précédent. Quand il y a eu les conjoints de même sexe, ça s'était retrouvé à la Cour d'appel et le gouvernement avait donné 1 an de rétroactivité par personne. Le ministre des Finances, Éric Girard, est responsable de ce dossier. Il n'a pas l'air d'un gars en mode solution. Le jugement rendu par le TAC soulève des questions d'ordre juridique, notamment en ce qui a trait à la prise en compte des éléments de preuve pertinents. « Nous ne commenterons pas davantage considérant que le processus judiciaire est en cours », m'a-t-il répondu par l'entremise de son attaché de presse. « Il fera tout ce qu'il peut pour que ce jugement soit comme ceux dont les droits ont été brimés, invalides. » Alors, le ministre des Finances, qui sera-t-il? On aura plus de détails aujourd'hui puisque c'est le remaniement ministériel et peut-être que ça a été annoncé. On va vérifier si on a la réponse. On va vous la donner, bien sûr.
Sans scrupules et sans façon, un whisky sans les glaçons. J'fais l'amour comme les garçons, et on me dira que j'suis une diva.
qu'une contrefaçon. J'ai beaucoup trop le melon.
Lazara et sa chanson Diva.
Alors, tout indique, selon Tommy Chouinard, que plusieurs ministres demeurent en place. Éric Girard aux finances, justement. Christine Fréchette à l'économie et l'énergie. Christian Dubé à la santé. Jean Boulet au travail. Et Mathieu Lacombe à la culture. Et les plus récentes nouvelles, je vous le disais tantôt, Lebel, maintenant, quitte le Trésor pour l'éducation, Sonia Lebel, en remplacement de Bernard Drainville. Martine Biron succède à Pascal Derry à l'enseignement supérieur. Jonathan Julien se retrouve à la tête du ministère des Transports. Après Geneviève Guilbeault, c'est un autre élu de la capitale nationale qui prend la barre de ce gros ministère, de toute évidence, un signal que veut envoyer François Legault sur la réalisation du troisième lien. Monsieur Julien était responsable des infrastructures jusqu'ici, écrit Tommy Chouinard. Un autre député de Québec, Jean-François Simard, se retrouverait autour de la table des décisions, notamment comme ministre responsable de la région. Le premier ministre a décidé d'envoyer un ancien policier de Montréal, Yann Lafrenière, à la sécurité publique après l'exclusion de François Bonnardel. Monsieur Lafrenière conserve la responsabilité des relations avec les Premières Nations et les Inuits. François Legault dévoilera la composition de son cabinet à 14 heures. La magnifique musique d'Alexandra Strelitzky. Elle fait parler d'elle. Elle fait ses classes. Elle est invitée à participer à l'initiative La Disque à l'école. La pianiste est allée à la rencontre d'élèves du secondaire hier dans le sud-ouest de Montréal. Elle a parlé d'apprentissage de la musique, bien entendu, mais surtout de son pouvoir rassembleur et de ses bienfaits pour l'âme. Au cours de sa discussion avec les élèves de l'école secondaire Honoré Mercier, Alexandra Strelitzky a insisté sur la connexion sociale que la musique rend possible. Quand tu fais de la musique dans un cours, tu es pris pour faire avancer ça en groupe, à essayer que ça marche. Je trouve ça sain. C'est important qu'on valorise ça dans notre société. La musique peut, selon elle, favoriser le sentiment de communauté et aider à faire du bien. Et dans le texte, on écrit aussi que Alexandra Strelitzky s'intéresse de plus en plus aux bienfaits de la musique, notamment à ses effets sur l'humeur, le bonheur et le développement du cerveau. Ses avantages collatéraux au plus strict apprentissage de la musique lui tiennent beaucoup à cœur et font partie de ses motivations à participer à la disque à l'école. C'est le philosophe Nietzsche qui disait « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Merci beaucoup d'avoir été là. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. On se retrouve demain. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Et je vous avais présenté Gabriel Gélina qui devait venir nous parler du guide de l'auto qui a 60 ans cette année. Pas Gabriel, peut-être que oui, mais je ne sais pas. Mais le guide, certainement. Finalement, on n'a pas pu le rejoindre. On va peut-être se reprendre. Qui sait? À suivre. À très bientôt.